Régime contrôlé. Ça fait bientôt. Ça fera 30 ans l'an prochain qu'il existe au sein de la Ligue des droits de l'homme une commission extrême droite. C'est intéressant de savoir que c'est en 82 que Madeleine Reverio, qui à l'époque était en charge de la justification, au moment du congrès de Lille, a décidé la création de cette commission avant même que le Front National n'émerge électoralement. Pourquoi ? Il y avait deux raisons. Premièrement, parce que l'extrême droite, en partie provoquée avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, une partie de l'extrême droite s'était lancée dans un activisme poussé, qui allait depuis les attaques de commandos, attaques de librairies, de nombreuses librairies étaient attaquées, attaques de foyers de travailleurs étrangers, attaques même du président de la Ligue des droits de l'homme, Henri Noguer, qui avait vu son appartement brûlé par un paquet de Molotov. Et puis également, nous constations que un certain nombre d'idées qui étaient en quelque sorte un peu frappé de tabou depuis 1945, que ces idées réémergeaient dans le paysage politique, plus simplement, plus seulement à l'extrême droite, mais au sein même de la droite française et dans le champ intellectuel, à travers des médias type Valeurs Actuelles, Figaro Magazine, et on se remettait, je vous gérerai plus tard, un certain nombre d'idées d'avant-guerre, l'eugénisme, la sélection des élites. Ces idées reprenaient corps. Et donc, la Ligue des droits de l'homme avait décidé de créer cette commission ouverte à tous. Et en quelque sorte, elle pressentait ce qui est arrivé par la suite. Alors, aujourd'hui, pourquoi organiser une réunion sur l'extrême droite ? Je ne sais plus quel est le titre exact, si c'est la montée ou pas.
La montée.
Alors, j'ai toujours une petite réticence par rapport à cette expression de montée, parce que pour moi, il n'y a pas de montée de l'extrême droite, il y a une présence de l'extrême droite depuis 30 ans, qui, et c'est un peu le paradoxe, alors que nous sommes dans une démocratie représentative, hein, qui sans députés, sans sénateurs, sans conseillers généraux, quelques conseillers régionaux élu à la proportionnelle, arrive à structurer le débat politique autour de ces idées, autour de ces thèmes. Et ça me semble important, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit bien qu'un certain nombre de débats sont polarisés autour de la problématique posée par le Front National lui-même. Je n'ai pas déjà dit hier soir, par exemple, un article du Figaro du 25 novembre, qui dit la part des étrangers dans la délinquance en France. Pourquoi tout d'un coup ceci arrive là, dans une enquête sur la sécurité, et ça nous intéresse de savoir pourquoi il y a des étrangers dans la montée de la délinquance en France. Donc ceci n'est pas innocent, ceci n'est pas anodin. S'il y a eu la création d'un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, qui était une des propositions d'ailleurs du programme Le Pen de 95, s'il y a, à ma connaissance, 17 lois sur la sécurité depuis 2002, je crois 7 ou 8 sur l'immigration, mais il faudrait revérifier les chiffres, c'est qu'effectivement, nous sommes en présence d'une extrême droite qualifiée aujourd'hui de nationale populiste, qui, sans représentant au Parlement, eh bien, arrive quand même à orienter le débat politique autour de ces idées. Alors donc je dis, pas monter, mais présence. Si vous me permettez, puisque ce soir j'ai un peu de temps, il n'y a pas 10 minutes comme hier soir, je vais remonter un peu dans le temps. D'abord parce que je crois que c'est important de pouvoir replacer ce phénomène sur la durée et ne pas céder un peu à ce qui est aujourd'hui la mode, ce que des historiens ont appelé en formant de néologisme, le présentisme et le bougisme. Aujourd'hui, il faut à tout prix que ça bouge, hein, et donc c'est le moment du temps présent, je veux dire. Et de fait, on est tenté de dire avec Daniel Cantona, montée du Front National. Oui, peut-être, sauf qu'il n'arrive pas comme ça, et il faut reprendre un peu l'histoire, prendre un peu de recul pour essayer de comprendre quelle est la nature même du phénomène. Deuxièmement, j'aimerais avoir également abordé la question de ce Front National, de ces extrêmes droites, de montrer qu'elles sont plurielles en France et en Europe. Troisièmement, de montrer qu'elles sont en mutation. C'est-à-dire que ce que nous avons appris et connu de ce que étaient les extrêmes droites dans les années 30, avec la montée du fascisme, du nazisme, et puis ces deux idéologies arrivant au pouvoir, ce que cela pouvait signifier par la suite. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une autre phase. Et l'antifascisme, la rhétorique antifasciste qui était utilisée encore jusqu'à récemment, je crains que celle-ci ne soit plus, à même de lutter contre ces nouvelles formes d'extrême droite en France et en Europe. Alors, effectivement, le paradoxe, c'est qu'on assiste à une poussée de l'extrême droite en Europe à partir des années 90. Et je dis paradoxal parce que c'est après la chute du mur de Berlin. Donc, à un moment où ce qui était l'ennemi principal, ce qui constituait en quelque sorte le ciment du discours en partie de cette extrême droite, donc l'anticommunisme, a priori, disparition du monde soviétique et de tous les satellites qui l'entouraient aurait dû, en réaction, éteindre, en quelque sorte, ces différents mouvements. Et pourtant non, on voit en Belgique, en Allemagne, en Autriche, bien entendu en France, des mouvements apparaître avec un langage, un discours, assez commun à l'époque. Si on reprend un peu l'histoire à partir de son année zéro pour l'extrême droite, c'est-à-dire 1945, on constate que jusque-là, donc de 90 à 45, l'extrême droite ne représente en Europe que des forces opusculaires. Et à quelques exceptions près, quelques flambées de fièvre, comme en Allemagne en 69, où un parti NPD franchit la barre de 4% et donc l'amène peut-être à l'entrée du Bundestag, et puis va retomber tout de suite. On a quelques résultats électoraux un peu significatifs du National Front dans les années 70, avec également l'installation d'un certain nombre de fortes communautés étrangères venant des pays du Commonwealth. Mais globalement, ce sont des groupuscules. Je dis quelques exceptions. J'en vois trois. Les deux premières, ce sont les dictatures franquistes et salazaristes jusqu'en 74-75. On oublie quand même qu'en Europe, on a pendant 30 ans deux dictatures issues, moins pour Salazar, mais plus pour Franco, des prémices de la Seconde Guerre mondiale. Dictatures qui ne sont pas, qui ne sont pas des régimes fascistes. Formulation de national communiste, pas communiste, catholiciste. National catholiciste, donc des régimes qui, avec un extrémisme exacerbé, un état fort autoritaire et qui, pour le cas d'Espagne et du Portugal, s'appuie donc sur l'Église catholique qui est un des piliers du régime. Mais il y a les aspects extérieurs du fascisme, avec le salut, les chemises bleues, etc. Mais on n'est plus dans cette catégorie. Et puis il y a l'Italie. Il y a l'Italie, c'est intéressant parce qu'en France, l'extrême droite française a toujours été attirée et séduite par ce qui se passait en Italie. Et je crois qu'on peut le voir encore aujourd'hui avec Marine Le Pen et ce qui se passe de l'autre côté des Alpes. En Italie, en 1946, se crée un parti, le Mouvement Social Italien, qui est un parti néo-fasciste, avec d'anciens militaires, et qui globalement, jusqu'aux années 90, va représenter 5 à 7% de l'électorat, donc avec, grâce au mode de scrutin, des députés et des sénateurs. Et autour du MSI se construisent d'autres groupes, comme Ordinero, Ordine Nuevo, qui vont pratiquer dans les années 60-70 un terrorisme noir, car souvent quand on parle du terrorisme dans les médias, on parle, on pense aux brigades rouges, etc., etc., mais on oublie qu'il y a eu aussi un terrorisme noir, et autrement plus meurtrier, puisque c'est le premier attentat, d'ailleurs c'est l'attentat de la Pedra Fontana en 69, et c'est l'attentat contre Frank Italicus quelques temps après, et c'est surtout l'attentat de Bologne, qui fait plus de 80 morts en 1980. Et donc on a là deux facettes, c'est-à-dire que ces groupes terroristes noirs qui jouent la stratégie de la tension de telle manière à ce qu'effectivement il y ait la mise en place d'une dictature via un coup d'état militaire, des services secrets ou d'autres, et puis le MSI qui lui joue le parti de l'ordre et qui veut apparaître comme étant le garant futur d'un nouvel ordre, se référant à l'époque mussolinienne, qui a été, je dirais, diversement commenté et apprécié en Italie. Selon qu'on était l'Italie du Nord, où là c'était la résistance et une véritable guerre civile avec les brigades de partisans, dont la fameuse brigade des Garibaldi, et l'Italie du Sud, qui elle, n'a pas connu toute cette période-là et qui était plus sensible au discours et aux pratiques fascistes. Donc, une extrême droite groupusculaire sur l'ensemble de l'Europe. Et en France, on est un peu après-guerre, bon, c'est pareil, c'est des petits noyaux, généralement des, comme on dit, les rescapés de la collaboration et des anciens de la Waffen-SS qui tentent de créer des groupes, comme René Binet, mais bon, on reste au sein du groupuscule. Ce qui va de nouveau enclencher un phénomène de dynamique au sein de l'extrême droite, ce sont les guerres coloniales. D'abord l'Indochine, mais surtout la guerre d'Algérie. Et c'est avec la guerre d'Algérie qu'on voit apparaître un certain nombre de groupes comme les Jeunes Nations, qui est le premier groupe à reprendre l'emblème de la croix celtique, fondé par ce qui est aujourd'hui un des vétérans de l'extrême droite française, Pierre Sidos et Dominique Bénère. Et cette guerre d'Algérie est pour l'extrême droite française peut-être le moyen d'arriver au pouvoir par les armes, d'abord par des coups d'état militaire. C'est la première tentative réussie, mais au profit des gaullistes de mai 58. Car on oublie souvent que le coup d'état du 13 mai se fait au nom de l'Algérie française, et que c'est grâce effectivement à une habileté des réseaux gaullistes d'Alger que ce général de Gaulle qui va effectivement être désigné, donc puis élu, et mettre en place une politique qui amènera à l'indépendance de l'Algérie. Et puis c'est la tentative d'avril 61 avec le putsch d'Alger et ensuite la création de l'ORS. C'est un échec. Cet échec va obliger l'extrême droite à se recentrer vers une stratégie beaucoup plus électoraliste. C'est la tentative de 65 avec Pixie Guillaume-Cours qui fait 5% des voix, mais avec des scores d'ailleurs importants d'un point de vue cartographie électorale dans tout le sud-est de la France. C'est là où il fera ses meilleurs scores dans toute la région PACA. Puis au moment des élections législatives, création de petits partis, le MNP, le REL, et puis tout ça, bon, finalement, tout ça disparaît parce que l'extrême droite reste toujours à l'état groupusculaire sur un plan électoral, ne pèse pas. Et donc là, on va se mettre en place, tirant les conclusions de ces deux échecs, l'échec de l'activisme et l'échec de l'électorisme, une stratégie qu'on va appeler métapolitique, c'est-à-dire stratégie dite culturelle et de conquête des idées. C'est l'apparition d'un groupe en 68, le groupe de recherche et d'études pour une civilisation européenne, le GRES, avec à sa tête un jeune activiste, Alain Benoît. Et donc, l'idée, c'est, reprenant les thèses d'Antonio Gramsci, qui était un des penseurs du marxisme italien, l'idée, c'est avant de conquérir le pouvoir politique, il faut d'abord conquérir le pouvoir des idées. Et donc, nous devons être dominants, nous devons être hégémoniques sur un plan intellectuel. Et Alain de Beauvoir, je pense que le feuilleton Jacques Croquant a plus fait pour la victoire de la gauche que tous les discours de Pierre Moreau, disait-il. Ce n'était pas très gentil pour Pierre Moreau, certes. Mais l'idée était là, c'est-à-dire un feuilleton qui montre la révolte des paysans contre un pouvoir féodal, et donc, à travers là, bon, toute une dimension de lutte des classes, et donc cela a traversé les esprits et a joué certainement, effectivement, dans le façonnage des cerveaux. Donc, il va falloir se battre sur le terrain des idées, et donc imposer nos idées avant même d'envisager de conquérir le pouvoir politique. Et donc, pour ça, ce groupe va constituer des groupes de travail, avec des séminaires, des colloques, va se doter de revues, Nouvelle École, Éléments, et puis après, ils vont aller investir d'autres médias, beaucoup plus représentables et surtout représentatifs, comme d'abord Valeurs Actuelles, puis Le Figaro Magazine qui sort, Le Figaro sort en 78, un supplément dimanche, qui va donc devenir, avec à sa tête Louis Powell, Le Figaro Magazine. Alors, le corpus des idées du Grèce, quel est-il ? Je développe un peu parce que je pense que c'est aussi un des facteurs d'explication de l'arrivée du Front National dans les années 80. C'est assez classique dans l'histoire de l'extrême droite. La société occidentale est en décadence, elle est en crise. Si elle est en crise, c'est qu'elle est frappée par un mal profond. Ce mal profond, c'est l'égalitarisme. Et trois doctrines, trois sources sont responsables de cet égalitarisme, le marxisme, le libéralisme et le christianisme. Parce que la particularité de ce groupe, c'est qu'il n'est pas nationaliste français, non, il est européen, il défend le nationalisme nationalisme européen. Il n'est pas dans les racines chrétiennes de la France, comme le sont les autres groupes, plus particulièrement l'extrême droite et le contre-révolutionnaire. Il est païen et il défend le paganisme, parce que pour lui, ce sont les sources mêmes des racines européennes. Et puis, il est anti-libéral, c'est-à-dire qu'il condamne le libéralisme, car cette doctrine fait croire que, en quelque sorte, elle dissout l'époque, elle dissout les identités et les racines, et elle fait croire que tout le monde peut être égal devant le marché. Donc, pour retrouver les vraies valeurs, il faut reconstruire ce qui était les bases mêmes de la civilisation européenne, le monde indo-européen, et reprenant à leur compte les thèses de Georges Dumézil, ils construisent donc une société très inégalitaire, très hiérarchisée, sur les trois fonctions qu'avait développées Georges Dumézil, fonction de souveraineté, fonction guerrière et fonction marchande. Et il faut que les trois s'équilibrent. Et puis, donc, bien entendu, on a derrière, alors il y a une façade qui se veut honorable, et puis il y en a une qui est un peu moins, parce qu'on va refaire ressurgir deux vieux auteurs des années 40, comme Hans von Günther. Bref, il y a tout un courant racialiste se cache derrière les thèses de Grèce, d'une part, et puis on va se servir d'un certain nombre de cautions scientifiques, comme Corrad Lorenz, sur le thème, bon, ce qu'il a développé sur le monde des animaux s'applique également au monde des humains, nécessité d'avoir un territoire séparé, un territoire où le plus fort l'emporte sur le plus faible, etc. Et puis, on voit également développer dans les colonnes des revues, un certain nombre d'études, la plupart d'ailleurs d'origine américaine, selon lesquelles eh bien, il y a une différenciation entre les races, il y a une hiérarchisation, il y a un quotient, tout le monde n'a pas le même quotient intellectuel, il faut donc sélectionner les élites, etc., voire même pratiquer l'eugénisme, voire l'avortement, ce qui explique que ceux qui ont dénoncé les premiers, de manière le plus virulente, les thèses du Grèce, c'est l'extrême droite intégriste. Et l'action française. Alors ça, c'est la stratégie culturelle du Grèce qui va porter ses fruits en partie parce qu'il y a une petite branche qui va s'en détacher de jeunes gens qui sont passés par l'ENA et qui, pour qui, bon, c'est bien gentil la conquête du pouvoir des idées, mais il faut en même temps, d'abord parce qu'ils sont énarques, il faut en même temps occuper des places et des positions dans l'appareil politico-administratif. C'est la création du Club de l'Horloge en 1974. Club de l'Horloge qui regroupe, alors il y a des gens qui viennent du Grèce, ils viennent pas tous de cette branche-là. L'idée, c'est on va créer un laboratoire idéologique, on va créer un club de pensée, une sorte de contre-club Jean Moulin, c'est écrit dans la réflexion au début. Et donc on va essayer de, à partir de là, d'être en quelque sorte ce laboratoire d'idées au service des droits. Et à l'époque, c'est le RPR et l'UDF. Et ils écrivent deux livres, Les racines du futur et la politique du vivant, qui reprennent en partie, les thèses du Grèce, mais pas complètement, parce que pour les gens du Club de l'Horloge, on ne tire pas un trait sur l'identité chrétienne de la France. Et puis arrive 79, campagne de presse, ce qu'on a appelé l'été de la nouvelle droite, et donc des milliers d'articles vont être consacrés à ces deux groupes, et là, la distanciation entre le Grèce et le Club de l'Horloge va être très nette. L'un va défendre des positions plutôt nationales-libérales et chrétiennes, et l'autre va rester sur sa dominante européenne, antilibérale et anti-chrétienne. Et puis à côté de ce groupe qu'on découvre simplement en 79, il y a l'extrême droite classique, c'est-à-dire des groupes utilisés parfois par le pouvoir de l'époque. Occident se crée en 64, Dissous en 68, Ordre Nouveau se crée en 69, Dissous en 73, et puis dans la foulée, le Parti des Forces Nouvelles, 74-83. Le Parti des Forces Nouvelles qui veut, comment dire, être l'aile droite de la droite. Bon. Ce qui est intéressant simplement, c'est de savoir que une partie aujourd'hui du cadre de l'UMP, y compris de responsables ministériels, ont été formés dans ces groupes, Occident, Renouveau et Parti des Forces Nouvelles. On a un certain nombre de ministres, de parlementaires, de responsables ministériels qui sont passés par ces écoles-là et qui, ont gardé des liens, ont raconté l'autre jour une anecdote. En 86, manifestation d'extrême droite à Paris. En 86, c'est la droite qui est de nouveau au gouvernement, c'est la cohabitation, et c'est donc Jacques Chirac, Premier ministre. Et puis, manifestation du GUD, et sur une banderole, il y a marqué « Matin, paye ta cotise ». Donc, grâce à quelques sources que j'ai, en particulier, l'ancien des renseignements généraux, à l'époque, pose la question, vous avez mis « Madelin », pourquoi pas « Longuet » parce qu'il y a « Madelin » et « Longuet ». Ah, mais c'est son gain, il continue de payer. Donc ça veut dire qu'effectivement, via des associations parallèles, on donnait un petit coup de main à ces groupes d'extrême droite. Et puis il y a le Front National. Donc nous allons arriver un peu à notre sujet. Le Front National. Alors, contrairement à ce que la légende entretenue par le Front National, ce n'est pas Le Pen qui crée le Front National, ce sont les responsables d'Ordre Nouveau. Et là, il faut retourner du côté d'Italie pour comprendre comment ça se passe. En Italie, on est en pleine stratégie d'attention, avec d'un côté, c'est le début, du terrorisme d'extrême gauche. On a un certain nombre de mouvements étudiants, de mouvements ouvriers dans les entreprises. Donc c'est la suite de ce qu'on a appelé le mai rampant. Et donc le MSI va se doter d'une structure un peu électoraliste, qui va s'appeler Droite Nationale, Il va essayer de rassembler un peu sur les franges de la démocratie chrétienne, et puis les partis monarchistes et d'autres formations dites de droite nationale. Et ça marche dans la mesure où le MSI fait quelques points supplémentaires aux différentes élections. Et donc en France, un homme qui s'appelle François Duprat, dont je recommande le visionnage sur le site, le web documentaire du Monde, de deux historiens qui ont travaillé sur la personnalité même de Duprat. Duprat, c'est un historien néo-fasciste qui introduit, c'est le premier à avoir introduit un peu les thèses négationnistes en France, donc qui revendique son néo-fascisme, et qui au sein d'Ordre Nouveau dit, mais voilà, regardez ce qui se passe en Italie, c'est ça qu'il faut faire en France. Il faut avoir une stratégie de front national, de rassembler, pour reprendre un peu leur vocabulaire de l'époque, les nationaux, les nationalistes révolutionnaires, que les gens d'Ordre Nouveau se disaient. Et donc, on crée une structure de front national qui va se présenter aux élections législatives de 73, qui est en même temps une structure de repli si jamais ça va mal, et puis à côté, il y a Ordre Nouveau, garde, reste intact. Et donc, on va. Le mimétisme est tel que c'est le MSI qui paye les affiches du Front National, et le sigle elle-même, et sachant que c'est une sorte de flamme tricolore, qui sort d'une petite boîte carrée. Donc à l'époque, on change les lettres, MSI et FM. Ce qu'il faut savoir, c'est que la petite boîte carrée, au départ, dans l'esprit du MSI, ça représente le catafalque de Mussolini. Et donc ça veut dire que du catafalque de Mussolini, c'est la flamme de la Renaissance italienne, de la Renaissance du fascisme. Et donc c'est ce sigle-là que prennent les gens d'Ordre Nouveau à l'époque, avec le même slogan d'ailleurs avec nous avant qu'il soit trop tard. Et donc le MSI paye une partie de la campagne du Front National. Et puis il faut un leader. Alors, on va chercher dans un premier temps Dominique Vénère, dont je parlais tout à l'heure. Mais Vénère, il a changé il ne fait plus de politique, il est historien, il publie des bouquins, donc ça n'intéresse pas. On pense à Jean-Jacques Susini, qui était un ancien de l'ORS, mais qui a quelques histoires avec la justice, puisque on n'a jamais retrouvé le trésor de l'ORS, fait d'un certain nombre de enveloppes particulières à la banque d'Oran en 1962, mais on n'a jamais retrouvé non plus le trésorier qui en 1967 disparaît, et donc Susini est à ces affaires-là. Et donc on se tourne vers Jean-Marie Le Pen, parce que Jean-Marie Le Pen à l'époque, il ne représente pas l'extrémisme de droite, au contraire. Le Pen, c'est un bon orateur. Il a été député poujadiste, en 56. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a eu cette petite poussée de fièvre du mouvement poujade, mais ce serait réducteur de réduire le mouvement poujade uniquement à un mouvement d'extrême droite. Il a été directeur de campagne de Tixédion en 65. Il ne fait plus de politique, il édite des disques avec son ami Léon Gauthier, un ancien également de la LVF. Et donc, Le Pen, il est là, il traîne, il est dans les lignes des débats, il vient de temps en temps voir les gens dans le Nouveau. Donc, on pense que ça pourrait être effectivement le bon candidat. Et donc, on essaye de regrouper un peu, et contrairement, ou alors c'est un demi-mensonge, que disait Louis Alliot il n'y a pas très longtemps sur, je crois que ça devait être FR3, en disant, mais Georges Bidault, d'ailleurs c'est un des arguments du Front National, pour dire, mais nous n'étions pas d'extrême droite, puisque Georges Bidault lui-même a été fondateur du Front National. Georges Bidault, c'est le compagnon de la Libération, le successeur de Jean Moulin, à la tête du CNR, mais il rompt avec De Gaulle pendant la guerre d'Algérie, et il crée un CNR OAS, et donc quitte la France et est exilé. Et Bidault, qui est donc dans les franges, on va dire, de la droite nationale, il délègue quelqu'un pour aller regarder ce qui se passe au sein du Front National, et au bout d'une semaine, il intime l'ordre à ses partisans de quitter le Front National. Pourquoi ? Parce que tout de suite, Bidot a compris, en quelque sorte, dans quel pétaudière il allait. Vous avez, alors, il y a toutes les strates de l'extrême droite française qui sont représentées à ce moment-là dans le Front National, toutes celles de la collaboration avec François Guignot, Brino, qui est à Minu, qui est ancien milicien, avec Gabriel Jantet, qui vient de la Cagoule, avec Henri Charbonneau, qui était inspecteur général de la milice, avec Victor Barthélémy, qui était secrétaire général du BPF, avec Pierre Bousquet, trésorier du FN, qui est ancien de la PNSS, bref, bon. Bidot comprend quand même que lui, l'ancien compagnon de la Libération, ne peut pas frayer le chemin. Et donc, c'est l'élection des 73, c'est un échec, hein, le FN est à peine plus de 2%, et puis arrive la dissolution d'Ordre Nouveau qui s'est relancée dans un meeting contre l'immigration sauvage. Parce que déjà, le thème de l'immigration est un des thèmes porteurs à l'extrême droite. Il est depuis la fin de la guerre d'Algérie, finalement. Car je crois que c'est aussi un des éléments de compréhension de la présence du Front National dans le paysage français. La guerre, c'est pas l'élément principal, mais il y a quand même cette impensée de la guerre d'Algérie. On fait campagne dans les années 60 sur dehors de l'Algérie, et en 72-73, on fait campagne contre l'immigration sauvage, avec une vague d'attentats et d'assassinats racistes en France, comme jamais la France n'a connu depuis la fin de la guerre d'Algérie. Je crois qu'on recense à peu près à l'époque, pour toute la France, principalement dans le Midi, une cinquantaine de meurtres qui, à ce jour, n'ont pas été décidés. Avec Pointe-Milan, l'attentat contre le consulat d'Alger à Marseille, par 4 morts au mois de décembre. Donc, les gens de renouveau sont ici, et bien entendu, nous, le Front National, c'est nous qui sommes majoritaires, on vient au Front National. Sauf que Le Pen est un vieux routier, je dis, mais ça, il n'en est pas question. Dehors, c'est moi qui contrôle tout, puisque j'ai les dossiers de part de Bidot. Donc, là, il y a toute une procédure juridique. Dans lequel Le Pen est assez fort, puisqu'il gagnera également contre Maigret quelques années plus tard. Et donc les gens, les dissidents sont obligés de créer donc le parti des forces nouvelles dont je parlais tout à l'heure. Et donc Le Pen reste seul maître à bord au sein du Front National. Alors, le Front National de 73 à 83, c'est quoi ? C'est un groupuscule. C'est un groupuscule de quelques centaines de militants, bon, avec différents courants. Il y a un courant plutôt néo-nazi, il y a un courant dit solidariste avec l'arrivée de Jean-Pierre Sirbois, il y a un courant contre-révolutionnaire avec Maurassien, avec l'historien Jean-François Kiat. Bon, il y a des gens qui sont là, mais bref, ça ne va pas bien loin. Ça ne va pas bien loin à tel point que Le Pen, quand il se présente aux élections présidentielles, il faut avoir ça en mémoire quand même, l'élection présidentielle de 1974, il fait 0,7. C'est-à-dire que si vous prenez une carte de France et vous décidez de hachurer chaque département où Le Pen fait plus de 1%, la carte reste blanche. En 81, Le Pen n'a pas les 500 signatures, mais il ne peut présenter que 77 candidats aux élections législatives. Et pourtant, 3 ans après, c'est l'élection européenne, c'est l'élection européenne de 84, où il fait quasiment jeu égal avec le Parti communiste et obtient 10 députés. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que ce groupuscule devienne la quatrième force politique du pays et fasse en sorte que, finalement, le FN reste dans ses eaux entre 10 à 15, 16% des voix pendant pratiquement 30 ans. D'abord, je crois, par rapport à 83, il y a un facteur qui est la victoire de la gauche a provoqué en réaction une radicalisation de la droite. Quand M. Barouin, l'autre jour, dit que la gauche a gagné par effraction les élections de 97, il révèle en réalité, c'est un impensé de la droite. Il n'y a que la droite qui peut gouverner. La gauche, elle n'est pas faite pour ça. Elle doit rester dans l'opposition. Et 81, effectivement, la droite ne veut pas s'imaginer que la gauche puisse gagner. Alors certes, vous me direz, Jacques Chirac et le RPR ont un peu aidé, faisant battre Giscard d'Estaing. Mais dans leur esprit à l'époque, Mitterrand gagnait la présidentielle, mais bien entendu, dans la foulée, c'est le RPR, et ça j'ai eu des, comment dire, des, lors d'un colloque récemment consacré à l'UDF, au Centre d'Histoire de Sciences Politiques, hein, des responsables de l'UDF de l'époque disaient, mais quand vous discutiez avec Jacques Chirac, il vous disait, mais on va gagner les législatives. Parce que la gauche ne peut pas gagner les législatives. On va faire un croc en jambe à Giscard, mais après, on gagne les législatives, et Mitterrand sera obligé de se démettre. Et effectivement, de 80, on va dire jusqu'en 84, avec les manifestations sur l'école privée, on a une droite qui dit, mais voilà, certes, ce gouvernement est légal, mais il n'est pas légitime. Avec une montée en puissance d'un certain nombre de mouvements sociaux, les agriculteurs, les médecins, les professions libérales, les étudiants, les PME, PMI, bref, toutes les catégories sociales sur lesquelles la droite a un peu d'influence vont descendre dans la rue. Et parfois avec des affrontements assez durs avec les forces de l'ordre. Et puis, il faut adopter un discours offensif. Alors d'abord, ça passe sur le plan économique. Rupture complète avec tout ce que le gaullisme représentait en matière politique et économique. Adoption des théories et des thèses ultralibérales favorisées par l'arrivée au pouvoir de d'abord Margaret Thatcher et ensuite de Ronald Reagan. Et donc on a un RPR qui à ce moment-là défend les théories de l'ultralibéralisme. Hein. Il faut tout dénationaliser, tout désathétiser. Il faut pratiquer la loi du marché dans toute sa rigueur. Et puis, on voit arriver aussi un certain nombre de thèses. Ce thème, bah, il y a la sécurité, bien entendu, puisque c'est la gauche, donc ça va mal, il y a la sécurité. Et s'il y a la sécurité, c'est qu'il y a aussi l'immigration. Et que s'il y avait moins d'immigration, eh ben, il y aurait moins de délinquance. Bon. Et ça, c'est plus simplement le Front National avec ses affiches qui étaient collées, qu'on voyait de temps en temps dans les rues. Hein, un million d'immigrés, un million de chômeurs. Avec, bon, et puis un million, deux millions, trois millions. Mais non, là, ça se dit, ça s'écrit, ça se pense dans les clubs de la droite, dans le club de l'horloge, dans les partis RPR, UDF. Et donc on a eu en quelque sorte un phénomène de préparation, je dirais, il y a eu une sorte de tir d'artillerie idéologique, de matraquage sur un certain nombre de sujets. Vous reprenez la presse de l'époque. Entre le premier et le deuxième tour des élections municipales, tous les jours, le Figaro publie un article sur le thème immigration et sécurité. Tous les jours. Et ça, vous le retrouvez dans tous les hebdomadaires, plusieurs magazines, Valeurs Actuelles, Spectacle du Monde, etc. Quotidien de Paris, etc. Donc, on a préparé l'opinion, effectivement, on a préparé l'opinion à ce type de discours. Deuxième élément, eh bien, l'union. Parce que en 82, on commence à avoir un petit frémissement au cantonat. Il y a un certain nombre de candidats d'extrême droite qui font des scores significatifs. Et on n'est plus dans le score à un chiffre, on est dans le score à deux chiffres avec Jean-Pierre Sirois à Dreux, qui fait 12% et sa femme fait 9,5%. Et ça, le RPR s'en aperçoit. Et donc fait liste commune avec le Front National dès le premier tour d'élection municipale de Dreux en mars 1983. D'ailleurs, vous avez dans un certain nombre de communes des listes où il y a des militants d'extrême droite, Front National, mais surtout PFN, puisqu'à l'époque le parti encore un peu dominant, c'est le parti des Français. On a des listes, principalement d'ailleurs dans le sud-est de la France. Et donc cette liste va être, cette élection va être invalidée puisque Françoise Gaspard, qui est à l'époque maire de Dreux, ne gagne la mairie qu'à quelques voix près, et donc partielle de Dreux, là il y a des listes séparées, mais le Front National fait 16%. Et donc au deuxième tour, on fait alliance, et on fait union avec le Front National contre les sociaux communistes. C'est d'ailleurs la thèse de tous les leaders de droite de l'époque, à deux exceptions près, Bernard Stasi et Sidney Veil, contre les socialo-communistes, hein, contre les socialistes qui sont alliés avec le parti totalitaire, le parti communiste. On voit pourquoi on ne devrait pas faire alliance avec le Front National, qui de toute façon n'est qu'un groupuscule, ne représente pas grand-chose. Bon, sauf que ça va être l'élément déclenchant, hein, c'est l'étincelle qui conduit vers la poudrière. Et à partir de là, on a un Le Pen qui s'est joué parfaitement des médias et qui, en gros, va faire un discours. Bah, écoutez, ce que je dis, moi, depuis des années, je constate que d'autres le disent maintenant, mais moi, à la différence, je n'ai jamais exercé de pouvoir. Et donc, moi, Le Pen, je mettrai en œuvre ce qu'il faut. Et je suis prêt, parce qu'à l'époque, on est prêt, le Front National est prêt à passer des alliances avec les partis de droite. Et c'est l'élection. Et puis, alors, troisième facteur, donc, et donc c'est l'élection des européennes, avec, je crois, un troisième facteur qu'il faut reconnaître. Parce que, quand on regarde un peu l'électorat du Front National de 84, qui n'est plus le même d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est un électorat beaucoup plus populaire. À l'époque, c'est aux trois quarts un électorat de la droite radicalisée, qui votait RPR, UDF, et qui considère que, bon, on va reprendre Front National, pourquoi pas, puisqu'on voit plus très bien de différence désormais dans le discours. Mais il y a un électorat qui vient de la gauche, qui va également Front National, qui ne vient pas directement du Parti communiste, comme on l'a pu écrire, qui a pu voter communiste, mais qui, entre-temps, parce que je vous rappelle, le Parti communiste est quand même sur une pente déclinante, Marchais ne fait plus que 15% présidentiel, et là, le PC ne fait plus que 10%. Et donc, qui est passé par les voies du PS. Et qui ne se retrouve plus dans la politique économique qui est menée depuis 83. Et je crois qu'il y a aussi un effet... Un effet provoqué par une sorte de désillusion, c'est-à-dire que désormais le gouvernement c'est encore Pierre Mauroy, puis après Laurent Fabius, abandonne la ligne, le projet socialiste tel qu'il avait été défini dans les années 80, et donc se rallie, à la loi du marché. Donc on s'oriente plus vers les politiques libérales. Donc, de fait, on a là un facteur de désillusion. Et sur le thème, finalement, eux aussi, ils ont échoué. Eux aussi, ils nous promettaient qu'on avait enrayé la courbe du chômage. Et eux aussi, c'est l'échec. Alors, c'est vrai que les choses n'ont pas été si simples que ça. Mais c'est aussi une réalité dont il faut tenir compte. Et puis, donc, par la suite, hein, c'est toutes les étapes que vous connaissez de 84 jusqu'en 95, où là c'est une véritable dynamique qui est en train de se mettre en place, parce que désormais le FN c'est pas simplement des scores présidentiels aux européennes, mais c'est aussi la conquête de ville, hein. C'est le municipal de 95 avec Toulon, Marignane, Orange, puis Vitrolles en 97. Bon. Là on sent. Et je me rappelle, pour en avoir discuté, puisque à l'époque, la Ligue des droits de l'homme était au Comité national de vigilance contre l'extrême droite, on sentait une véritable dynamique se mettre en place. D'autant plus forte qu'en 98, les barrières commencent à sauter. Et les alliances se font dans un certain nombre de régions. Essentiellement, d'ailleurs, des régions UDF. Mais les alliances se font. Et alors après, bon. Et bien alors après, il s'est trouvé que Maigret a considéré que ça y est, le moment était venu, et a oublié que dans ce type de formation, il ne suffit pas d'être majoritaire, il faut simplement être le chef. Et là, en l'occurrence, si vous voulez, c'était comme si ici on faisait un vote, vous étiez tous contre, et moi je suis pour, voilà, et bien les pour l'emportent, c'est moi qui ai le micro. Bon. Au Front National, c'est ça. Il avait une majorité, sauf que c'était Le Pen le chef. Bon. Et après, Le Pen avait la légitimité du site, il y avait l'égalité du nom, il y avait l'électorat, la bagarre qui s'enclenchait après a fait que bon, Maigret a perdu et on a vu le résultat. Mais ça n'a pas été une scission sans conséquence, parce que d'abord, Le Pen a perdu une bonne partie de ses cadres, de ses élus, Ils ne se sont toujours pas remis, il faut dire. On voit bien la difficulté qu'ils ont aujourd'hui d'essayer de recruter, en particulier tous ceux qui venaient du club de l'horloge, ont quitté les fonds et ne sont pas revenus. Et d'autre part, et ça on y reviendra peut-être après, d'autre part, ça a enclenché un facteur de démobilisation dans le mouvement antiraciste et contre l'extrême droite. Parce que peu à peu, on a vu, à commencer même par la Ligue des droits de l'homme, hein, la commission extrême droite, peu à peu, on a vu que les gens ne venaient plus et pensaient que ça y est, c'était joué, maintenant c'était terminé. Et d'ailleurs, tout le monde le disait, les journalistes, les politologues, etc. C'est le déclin assuré du Front National. Et donc, on a vu les associations, RALF Front, le manifeste contre le Front National, toutes ces associations, peu à peu disparaissent. Bon. Et puis, il y a 2002. Bon. On pourra y revenir, mais 2002 n'est en quelque sorte qu'un feu de paille. Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est, comment dire, si on voit l'apparition en Europe d'autres extrêmes droits, et qui commencent à avoir un discours et des stratégies différentes, avec un changement à la fois dans les pratiques militantes et dans le vocabulaire utilisé. Et le Front National, il est aussi sur cette pente-là. Il est en train de modifier, je dirais de manière radicale, son discours. Parce que, quoi de plus différent qu'un Pink Fortune, par exemple, d'un Jean-Marie Le Pen, hein, ce leader populiste qui a été assassiné, qui dit rejeter les immigrés, mais qui affiche ouvertement son homosexualité, qui a une petite boucle d'oreille, et qui défend parfaitement les valeurs du capitalisme et du marché. Bon. Nous avons des partis, partis du progrès, partis de la liberté, partis des démocrates suédois, donc qui revendiquent la liberté, la démocratie, etc., qui n'ont pas vraiment militants, juste une sorte de comité directeur avec un leader, et qui font des résultats significatifs sur un plan électoral. Bon. On n'est plus dans les années 30 avec les sections d'assaut qui marchent 4 par 4 avec les flambeaux, les chemises, etc. Les gourdins, l'affrontement dans la rue, une tentative de prendre le pouvoir par la violence. On n'est plus du tout dans ce registre. Et on s'aperçoit que donc cette extrême droite, elle est plurielle. Bon. On a l'Europe du Nord, avec donc des partis qui tiennent un langage, je dirais, un discours plutôt populiste. Certains sont européens, d'autres pas. Ils ont l'intention de défendre l'Europe, d'autres pas. Vous avez l'UDC en Suisse, par exemple, qui est anti-européen, mais qui est pro-libéral, mais qui rejette les étrangers, et qui entend à ce que la Suisse reste, en quelque sorte, un État fermé, fermé sur l'extérieur. Vous avez l'Italie, alors là c'est un peu le paradoxe, parce qu'en Italie, la mutation du parti néo-fasciste de Messi se transforme en 92-93 en alliance nationale, parce que là on est dans une phase d'implosion du paysage politique italien, deux grandes forces qui structuraient le paysage politique depuis 1945. La démocratie chrétienne et le parti communiste disparaissent. Et l'Alliance nationale, du coup, est en train de prendre sa place comme parti de droite, rompant avec le fascisme. Et le paradoxe est que, à l'époque, le leader de la Ligue du Nord, Umberto Bossi, dit « Mais moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là, parce que nous, notre héritage, c'est la résistance, c'est les partisans, ce n'est pas le fascisme. » Et aujourd'hui, le paradoxe est que ce sont les gens de la Ligue du Nord qui tiennent un discours extrêmement autoritaire, xénophobe, qui reprennent à leur compte un certain nombre des réalisations de l'Italie mussolinienne. Et c'est un Gianfranco Fini, qui lui par contre a été lâché en partie par les gens qui l'avaient suivi, qui essaye d'incarner, je dirais, un parti de droite démocratique et propre, et qui a été un des acteurs et un des ferments de la révolte contre Silvio Berlusconi, qui dit ne plus rien avoir à voir avec, avec l'extrême droite. D'ailleurs, Marine Le Pen, quand elle vient d'Italie, celle qui est présente, c'est la voix d'Almirante, celui qui a été le grand leader du NSI. Pour elle, Gianfranco Fini est un renégat et un tiède. Elle n'a pas du tout, absolument aucun contact avec lui. D'ailleurs, Fini ne veut pas avoir de contact non plus avec Marine Le Pen. Et donc, on a toute une évolution qui est en train de se faire et de changement dans le discours. On ne va plus parler, par exemple, au niveau du vocabulaire, bah, je trouve ça assez frappant, la question sur l'immigration. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de s'il y a encore des attaques sur les immigrés, et c'est l'islam qui est mis en avant. C'est aujourd'hui l'islamisation de la société. Et c'est un peu un discours qui est assez commun à l'ensemble de ces partis populistes d'Europe. C'est l'islam, et c'est d'autant plus intéressant et facile que pour Marine Le Pen, ça permet de se réapproprier à ce moment-là la laïcité. Et de dire, mais moi, au nom de la laïcité, je me bats contre l'islam, j'invoque la République de 1789, Valmy, etc. Parce que cet islam menace notre identité nationale. On va plus parler de hiérarchie. On va parler de différence. De même, on ne parlera plus de race et de culture. Et donc, de mettre en place une société qui respecte les différentes cultures, mais chacun, c'est le chacun chez soi, je dirais, hein, c'est le développement séparé. On va s'apercevoir aussi que le terme de nation n'est plus dans le vocabulaire utilisé. C'est le terme de l'identité. Aujourd'hui, on va défendre l'identité européenne, nationale, régionale, voire locale. Ce qui permet de se réapproprier là aussi des manifestations traditionnelles, régionales, champêtres, des fêtes, etc., etc., au nom de la défense de nos racines et de notre identité. Et donc, on a un Front National avec à sa tête, ce qui est aussi une nouveauté, une femme. Je veux dire, ce qui est dans un pays comme la France et dans des formations politiques qui sont extrêmement machistes, est une sacrée révolution. Sauf qu'avoir une femme à la tête d'un parti d'extrême droite, c'est pas la même chose que d'avoir un homme comme son père, parce que les angles d'attaque sont complètement différents. Et elle peut se servir également de cette féminité pour délaisser un peu les journaux politiques et aller également faire des entretiens dans les journaux féminins. Et d'ailleurs, ceux-ci ne se sont pas privés. Et donc aujourd'hui, ce Front National que l'on a, il va être différent du précédent. Le précédent, c'était le parti de Jean-Marie Le Pen. Et comme dit Jean-Marie Le Pen, il était tenu par l'armure rigide de ses solidarités du passé. Comme il dit, moi, c'est la guerre, celle qui a connu celle de mon père, qui était mort en empêché. C'est les copains d'Indochine, les copains d'Algérie, les rapatriés, c'était ça mon histoire. C'est plus le cas aujourd'hui de Marine Le Pen. Le Pen, lui, il ne cherchait pas à essayer de s'implanter politiquement. Et d'ailleurs, il récusait les élections municipales et statutaires parce que pour lui, c'était des sources de compromis. La seule chose qui l'intéressait, c'était l'élection présidentielle pour essayer de faire, comme il disait, turbuler le système, de provoquer le système. Et donc finalement, il avait une démarche qui était plutôt une démarche protestataire. Avec Marine Le Pen, et je termine sur le côté protestataire, ça s'est vu, ça se voit, si vous avez regardé le film, particulier celui de Moati, il apprend qu'il est au deuxième tour de l'élection de 2002, et il est comme hébété, parce qu'il n'a pas prévu ce truc-là. D'abord, il avait prévu plutôt d'être face à Jospin. Parce que là, ça aurait eu du sens. Face à Jospin, la droite était obligée de se déchirer et de savoir si oui ou non elle allait appeler voter Le Pen contre Lionel Jospin. Là, on a vu comment les choses se sont passées. Et puis, il n'y a rien. Rien n'est prévu. Il avait prévu un peu de papier et quelques meetings, mais sur le plan politique, rien n'est prévu. Parce que ce n'était pas son objectif d'aller le conquérir le pouvoir. Là, aujourd'hui, avec Marine Le Pen, c'est complètement différent. On a quelqu'un qui veut conquérir le pouvoir, pas forcément passer des alliances avec l'UMP tel qu'elle est aujourd'hui, mais qui entend bien être présente au second tour de l'élection présidentielle, là, réussir ce que son père a échoué. C'est, en quelque sorte, d'imposer le système. Et d'ailleurs, elle a changé, elle aussi, dans sa stratégie. Autrefois, le FN, quand on disait, vous êtes extrême droite, non, je ne suis pas d'extrême droite, je suis la droite nationale, sociale et populaire. Aujourd'hui, le FN se présente comme étant l'opposition nationale, sociale et populaire. C'est le ni droite ni gauche qui est retenu. L'ennemi principal, ce n'est pas tel ou tel parti, c'est le système dans son ensemble. Avec, comme il dit, l'UMPS. Hein, et là, ça permet de se réapproprier un peu le vieux langage de l'entre-deux-guerres ou du mouvement Poujade, qui est le tous pourri. Hein. On voit bien à travers les sondages qui sont faits, il y a aujourd'hui une majorité de Français qui ne se reconnaissent plus ni dans la droite ni dans la gauche, ou qui pensent que droite et gauche, de toute façon, feraient les mêmes politiques. Donc, stratégie de conquête du pouvoir, ce qui nécessite premièrement une crédibilité, et donc tout un travail sur le programme économique, et toute l'idée d'avoir des groupes d'experts, des cercles d'études, ça ne prend pas très fort. Hein. Et ma spécialisation étant plutôt, ma spécialité étant plutôt les, non pas l'extrême droite, mais les questions de défense, j'ai regardé un peu ce qui s'était fait, parce qu'elle a fait une convention sur la défense, bon, ça ne va pas très loin, hein. Les personnes ne se bousculent encore pour venir servir d'expert à Marine Le Pen. Mais en tout cas, c'est l'objectif, avoir la crédibilité. Et peu importe que son programme soit critiqué ou pas, je pense que pour elle, ce qui est important, c'est qu'on en parle. Et qu'elle quitte les pages de Minute de Rivarol, qui étaient autrefois les pages du Front National, pour aller devant le Nouvel Économiste ou l'Expansion. Crédibilité, ce qui veut dire aussi une banalisation des thèmes. Et essayer d'éviter toute diabolisation du Front National. Et donc, c'est l'article du Point de l'an passé, je crois, sur le thème « Les camps sont le summum de la barbarie ». Et donc, en finir, même si elle dit qu'elle assume les 40 ans d'histoire du Front National, en finir avec tous les négationnistes, tous les courants néo-nazis, etc., etc. Voilà, on dit « Terminé, les camps, c'est la barbarie, et donc vous ne pouvez plus m'accuser d'être vecteur de ce type d'idéologie. » Et puis, effectivement, aujourd'hui, la volonté de Marine Le Pen sera, je pense, à terme, de transformer le Front National et de créer une nouvelle structure. C'est-à-dire que la logique même de cette nouvelle stratégie, elle est là. Alors, on est dans une situation aujourd'hui un peu inquiétante parce que tout le monde voit bien que, je m'arrêterai là, on est dans une situation de type, je dirais, un peu anxiogène. Personne n'est capable de dire ce que demain sera. Est-ce que l'an prochain, l'Europe tiendra encore? Quel sera le sort de l'euro? D'ailleurs, c'est un des arguments de Marine Le Pen de dire, mais il faut sortir de l'euro, il faut retrouver le franc, parce que là au moins les Français s'y retrouvaient. C'est aussi le fait que, comme elle le dit d'ailleurs, hein, on est dans les 30 piteuses. Donc on voit bien que le chômage n'a pas été enrayé, la crise est permanente, et cette crise sociale et économique qui n'a pas su être enrayée et freinée par les politiques, du coup, a provoqué, par contre-coup, une crise du politique, c'est-à-dire une absence de crédibilité d'un certain nombre de nos responsables, avec comme corollaire soit les votes, effectivement, pour le Front National, soit l'abstention. Et on voit bien qu'il y a toute une cour, à quelques moments, il y a quelques exceptions, comme l'élection présidentielle de 2007. L'élection législative est une catastrophe sur le plan de la participation. Bon, on a le sentiment que, bon, de toute façon, élire tel ou tel, ça, ça peut à grand-chose. Ça ne sert à rien de se mobiliser. Bon. Et donc, notre pays et le continent européen, bon, du fait du système économique dans lequel nous nous trouvons, la fameuse crise du capitalisme que beaucoup prédisaient, elle est là, ça y est. Elle est structurellement là. Et donc, de fait, un parti national populiste qui va surfer un peu sur les peurs des Français, qui va pouvoir jouer avec un certain nombre de fantasmes, expliquer par rapport à des problèmes complexes en disant mais non, nous, on a des problèmes assez simples. Finalement, il faut se retrouver la grandeur de la France, l'État national, et puis en quelque sorte chasser les immigrés. Parce que c'est là la source de tout le monde, de la dette, de la sécurité, etc. etc. Donc, on voit bien que l'angle d'attaque que peut avoir Marine Le Pen et le créneau qu'elle a, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui à 18% dans les intentions de vote. Que jamais son père n'a eu dans le passé. Non seulement il ne les a pas eu, mais en plus, les sondeurs vous disent aujourd'hui, mais on ne corrige même plus les intentions de vote. Parce que les gens aujourd'hui disent oui, je vais voter pour la semaine. Alors qu'avant, on pouvait subodorer, mais ce n'était pas si clair. Donc maintenant, voilà, elle est à 18%. Donc c'est une base de départ importante. Et dernièrement, le dernier point, elle est confortée par les plus hautes autorités d'État. Quand un ministre de l'Intérieur, toutes les semaines, en rajoute une couche sur le thème « Ah oui, je comprends que les Français chantent plus chez eux. Ah oui, c'est vrai quand elle dit qu'il y a beaucoup trop d'étrangers qui viennent en France, je suis d'accord. Ah oui, etc. etc. » Je ne la fais pas, bon, vous connaissez aussi bien que moi. On a légitimé le discours du Front National sous couvert de subtiles manœuvres pour récupérer son électorat. Ça a marché une fois, en 2007. Ça a marché pourquoi? Parce que tout le monde savait en 2007, y compris l'électorat du Front National, que Le Pen ne voulait pas du pouvoir. Il l'a démontré en 2002. Et donc, c'était la grande chance de Sarkozy, c'est qu'à ce moment-là, il a pu récupérer une partie de l'électorat du FN. Et que depuis, il l'a perdu. Et que maintenant, il est un peu dans cette stratégie d'essayer de récupérer, en pensant qu'en reprenant les thèmes du Front National, il va pouvoir récupérer en même temps son électorat. Rien n'est sûr. Alors j'ai l'habitude un peu de dire que il y a quelqu'un du FN qui est mort en 88, c'était Jean-Pierre Sirbois, qui était un redoutable successeur de Jean-Marie Le Pen, qui était son bras droit, et qui disait « Notre terreau, c'est la crise ». Qui donc avait parfaitement compris. Et que tant que la crise que nous connaissons, qui a été analysée, etc., etc., sous toutes ses formes, tant qu'on ne sortira pas de cette situation, effectivement, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire une scission du Front National, une baisse à un moment dans une élection, etc., tant que et c'est ce que j'ai toujours écrit au sein de la Ligue des droits de l'homme, tant que les conditions structurelles qui ont fait que le Front National a émergé sont toujours présentes, alors effectivement, oui, il y a un créneau, et on peut même dire aujourd'hui un boulevard, pour une extrême droite qu'on va qualifier de national populiste. Et c'est pour ça que ce type de réunion est utile, parce que je crois que dans cette société individualiste qui brise un peu tous les repères, tous les liens de solidarité collective, je pense qu'il faut des sursauts civiques et que ça passe, et ça commence d'abord, par ce type de réunion, c'est-à-dire de prendre une soirée pour discuter, pour apprendre, pour connaître, pour analyser et pour ensuite voir comment lutter contre le terrain national. Merci.